Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Aujourd'hui, je lis un court texte d'Haruki Murakami qui s'intitule « Abandonner un chat ». Et dans ce texte, le célèbre écrivain japonais retrace l'histoire de son père et s'interroge aussi sur leur relation complexe. C'est parti. Bien entendu, j'ai de nombreux souvenirs de mon père. Comment pourrait-il en être autrement, étant donné que depuis ma naissance et jusqu'à ce que je m'envole du nid à 18 ans, nous avons vécu côte à côte dans notre modeste demeure. Et comme il en va de même, je suppose, pour la plupart des pères et de leurs fils, certains de ces souvenirs sont heureux, d'autres beaucoup moins agréables. Mais ceux qui me restent les plus vivants en mémoire n'appartiennent à aucune de ces catégories. Il s'agit plutôt de scènes parfaitement ordinaires de la vie de tous les jours. Celle-ci, par exemple. Lorsque nous vivions à Shukugawa, nous sommes allés un jour à la plage afin d'abandonner un chat. Non pas un chaton, mais une femelle adulte. J'ai oublié la raison pour laquelle nous devions nous séparer d'un chat aussi âgé. Nous habitions une maison individuelle avec jardin et nous avions largement assez d'espace pour qu'un chat y trouve sa place. Peut-être s'agissait-il d'une chatte errante qui avait trouvé refuge chez nous. Peut-être qu'un jour, mes parents s'étant aperçus qu'elle était grosse, ils s'étaient dit que ce serait trop de problèmes d'élever aussi ces chatons. Mes souvenirs sont flous à ce sujet. En tout cas, à cette époque, abandonner un chat était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui. Ce n'était pas quelque chose qui vous attirait des reproches ou des critiques. Quant à le faire stériliser, l'idée n'en serait venue à personne alors. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais encore au cours préparatoire ou au cours élémentaire. Cela se passait donc au début des années 30 de l'ère Showa, c'est-à-dire aux alentours de 1955. Près de chez nous subsistaient les ruines d'un immeuble abritant une banque bombardée par l'armée américaine. L'une des quelques cicatrices de la guerre toujours visible alors. Un après-midi d'été, mon père et moi sommes partis à vélo afin d'amener le chat sur la plage. Mon père pédalait et moi j'étais assis sur le porte-bagages avec dans les bras une boîte en carton où se trouvait l'animal. Après avoir longé la rivière Shukugawa, nous sommes arrivés à la plage de Koroan. Nous avons déposé le carton dans un petit bois et, sans un regard en arrière, nous avons fait demi-tour. Il devait y avoir 2 kilomètres entre la plage et la maison. À l'époque, la côte n'avait pas encore été bétonnée et la plage de Koroan attirait beaucoup de monde. L'eau était limpide et durant les vacances d'été, presque tous les jours, je venais nager là avec des copains. Les parents, en ce temps-là, ne voyaient pas de raison de s'inquiéter et les enfants étaient donc libres de s'amuser dans l'eau autant qu'ils le voulaient. La Shukugawa était très poissonneuse. Je me souviens ainsi qu'une fois j'ai attrapé une magnifique anguille à son embouchure. Bref, nous avons donc laissé la chatte près de la plage de Koroan. Nous lui avons dit au revoir et nous sommes rentrés à la maison. Une fois chez nous, je suis descendue de la bicyclette avec au cœur un sentiment de tristesse pour cette chatte et le regret de mon impuissance. Et quand j'ai ouvert la porte d'entrée, qui avons-nous vu la queue en l'air, nous accueillant avec un miaulement très amical? La chatte dont nous venions de nous séparer. Elle nous avait devancés. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu galoper ainsi, parce que tout de même nous étions à vélo. Mon père non plus ne comprenait pas, et pendant un instant nous sommes restés muets. Je me souviens encore de la stupéfaction qui s'est peinte alors sur le visage de mon père. Mais cette expression s'est vite transformée en admiration, et finalement en une sorte de soulagement. Après quoi, il a été décidé que nous garderions la chatte. Elle le méritait bien, après tout le chemin qu'elle avait parcouru. Il y a toujours eu des chats à la maison. Je crois que nous vivions heureux avec eux. Pour moi, ils ont toujours été des amis merveilleux. Étant fils unique, mes compagnons les plus précieux étaient les livres et les chats. J'adorais prendre le soleil en leur compagnie sur la véranda. À cette époque, les maisons avaient presque toute une véranda qui donnait sur un jardin. Mais pourquoi avais-je dû abandonner cette chatte sur la plage? Pourquoi ne m'étais-je pas opposée à cet abandon? À ce jour, ces questions et aussi le fait que la chatte soit rentrée à la maison plus vite que nous restent un mystère.
It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. Soft nights, paradise. It's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous, you should care for me.
Peu après être entré à l'Institut bouddhiste, mon père a découvert les joies du haïku et il a rejoint un cercle de poésie consacré à ce genre. Pour employer un terme moderne, il était vraiment accro. Plusieurs des poèmes qu'il a écrits quand il était soldat ont été publiés dans le journal de son école. Sans doute avait-il été envoyé par la poste. Oiseaux qui migrent, ah, où vont-ils ? Vers mon pays sans doute. Être un soldat, être un moine, les mains jointes en prière et rejoindre la lune. Je ne suis pas expert en haïku et ne suis donc pas capable de juger de la valeur de ces poèmes, mais il n'est pas difficile d'imaginer l'état d'esprit d'un jeune homme de 20 ans composant ces vers. Ce ne sont pas l'art poétique et la technique qui étayent ces haïkus, mais la sincérité de l'émotion. Mon père, dans les collines de Kyoto, avait étudié pour devenir prêtre. Il avait à coup sûr travaillé avec zèle, mais à la suite d'une erreur de paperasserie, il s'était retrouvé soldat. Après une formation brutale et rudimentaire, on lui avait confié un fusil type 38, on l'avait embarqué sur un cargo de transport de troupes et envoyé sur de terrifiants champs de bataille. Son unité était toujours en mouvement, affrontant à la fois l'armée chinoise et la guérilla qui opposait aux Japonais une résistance farouche. Ce monde n'avait rien à voir avec la vie sereine que l'on mène dans un temple des collines de Kyoto. Il a dû éprouver une grande confusion, a sûrement été en proie à de violents conflits psychiques. Au milieu de ce chaos, écrire des haïkus représentait sans doute son unique consolation. Ce qu'il n'aurait pu noter dans une lettre, en raison de la censure, il l'exprimait sous une forme poétique, selon un code symbolique, dans laquelle il osait dévoiler ses véritables sentiments. Cela constituait sa seule possibilité d'évasion. Après la guerre, il a continué à écrire des haïkus. Mon père ne m'a parlé qu'une seule fois de la guerre. Il m'a raconté comment son unité avait exécuté un prisonnier chinois capturé par son régiment. J'ignore ce qui l'a poussé à me faire cette confidence. Il s'agit pour moi d'un souvenir isolé dont le contexte me reste d'autant obscur que cela s'est passé il y a bien longtemps. J'étais encore dans les petites classes de l'école primaire lorsqu'il m'a décrit cette exécution, avec une certaine distance, d'un ton neutre. Alors qu'il savait qu'il allait être tué, le soldat chinois ne s'est pas débattu. Il n'a manifesté aucun signe de peur. Il s'est simplement assis, en silence, les yeux clos. Puis il a été décapité. L'attitude de cet homme était exemplaire, m'a dit mon père. Je crois qu'il avait éprouvé un profond respect pour ce soldat chinois. A-t-il seulement été forcé de regarder les soldats de son unité pratiquer cette décapitation ou a-t-il dû lui-même y jouer un rôle actif ? Je n'ai aucun moyen de connaître la vérité, parce que mes souvenirs sont flous et parce que mon père a raconté cet épisode en termes volontairement vagues. En tout cas, une chose est claire, L'expérience a laissé dans l'âme de ce prêtre bouddhiste devenu soldat une cicatrice durable.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
Même après être devenu professeur, mon père a gardé intact sa passion pour les haïkus. Sur son bureau, il avait toujours un recueil de « mots de saison », un volume ancien, relié en cuir, et dès qu'il avait du temps libre, il le feuilletait avec dévotion. Cette anthologie des mots de saison était peut-être pour lui aussi précieuse que la Bible pour les chrétiens. Il avait publié plusieurs ouvrages de haïku, mais je ne les ai pas retrouvés. Où ont-ils bien pu disparaître ? Je crois bien qu'au fond de lui, mon père aurait souhaité que moi, son fils unique, j'accomplisse ce que lui-même n'avait pu mettre à exécution dans sa propre vie. Alors que je grandissais et que ma personnalité s'affirmait, les divergences psychologiques entre nous se sont peu à peu amplifiées, sont devenues beaucoup plus patentes, et comme nous étions l'un et l'autre plutôt têtus, aucun des deux ne voulait céder. Notre ressemblance tenait peut-être au fait qu'il nous était impossible d'exprimer nos pensées directement. Est-ce un bien ou un mal ? Je n'en sais rien. Je ne veux pas m'attarder sur ces frictions entre père et fils. Cela m'entraînerait trop loin. Je risquerais d'expliciter les choses trop crûment. Je m'en tiendrai donc là. En conclusion, je dirais que, comme je me suis mariée jeune et que j'ai rapidement commencé à travailler, les relations avec mon père se sont, pour ainsi dire, interrompues. Et à partir du moment où je suis devenue écrivain à plein temps, la situation entre nous s'est encore compliquée, au point que nos rapports sont devenus inexistants. Nous ne nous sommes pas vus pendant plus de 20 ans, et à moins d'une nécessité impérieuse, nous ne nous sommes ni parlé, ni écrit. C'est seulement peu de temps avant sa mort que j'ai parlé avec mon père en face à face. J'avais alors presque 60 ans, et lui en avait 90. Il était à l'hôpital à Kyoto, atteint d'un diabète sévère et d'un cancer généralisé. Lui qui était d'une constitution plutôt robuste, était à présent terriblement maigre, au point que j'avais du mal à le reconnaître. Ainsi, à la fin de sa vie, dans ses tout derniers moments, nous avons eu quelques conversations maladroites, et nous sommes parvenus à une espèce de réconciliation. Malgré tout ce qui nous séparait, nos façons différentes de penser et de voir le monde, tandis que je contemplais cet homme si émacié, si décharné, j'ai senti qu'il y avait indubitablement entre nous un lien flagrant, un lien qui me donnait de la force. J'ai un autre souvenir d'enfance dans lequel apparaît un chat. J'en ai fait un épisode de l'un de mes romans, mais j'en reparle ici, car cet événement a réellement eu lieu. Nous avions un chaton blanc, J'ai oublié comment il était arrivé chez nous, mais quand j'étais enfant, il y avait toujours à la maison des chats qui allaient et venaient. Celui-ci, pourtant, je me souviens que c'était un chaton à la fourrure soyeuse, particulièrement mignon. Un soir, alors que j'étais assis sur la véranda, je l'ai vu grimper très rapidement sur un pin. Il y avait un grand et beau pin dans notre jardin. On aurait dit qu'il voulait me montrer combien il était agile et courageux. Il a escaladé le tronc de l'arbre à une vitesse étonnante qui m'a laissé stupéfait et il a disparu dans les branches du haut. Au bout de quelques instants, il s'est mis à miauler désespérément, comme s'il demandait de l'aide. Il était monté trop haut. Il avait peur et ne savait plus comment redescendre. Les chats sont habiles pour grimper aux arbres, mais maladroits en descente. Ce chaton ne le savait pas. Il avait grimpé tout joyeux, mais quand il avait compris à quelle hauteur il se trouvait, il était resté quasiment paralysé. Je me tenais au pied du pin, regardant vers la cime, mais je ne parvenais pas à voir le chaton. J'entendais seulement ses faibles miaulements. Je suis allée trouver mon père et lui ai expliqué la situation. J'espérais qu'il trouverait un moyen de sauver le petit animal. Mais il n'a rien pu faire. Nous n'avions pas d'échelle de cette hauteur. Le chaton continuait à miauler et bientôt le soleil a commencé à décliner. L'obscurité a fini par envelopper le pin. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce chaton finalement. Quand je me suis levée le lendemain matin, je ne l'ai plus entendu. Je suis restée au pied de l'arbre, l'appelant par son nom, mais je n'ai pas eu de réponse. Juste le silence. Peut-être ce petit chat a-t-il réussi à descendre durant la nuit et à aller quelque part, mais où donc? Ou bien, de plus en plus épuisé, là-haut, dans les branches du pin, il a vu ses forces le quitter peu à peu, il n'a plus été capable de miauler et il a fini par mourir. Assis sur la véranda, les yeux levés vers la cime du pin, il m'est bien souvent arrivé de l'imaginer. Ce chaton blanc qui s'éteignait peu à peu, s'accrochant désespérément à une branche avec ses toutes petites griffes. C'est un souvenir d'enfance qui m'a laissé une forte impression et qui m'a enseigné une chose importante alors que j'étais encore très jeune. Il est bien plus difficile de descendre que de monter. Pour l'exprimer de façon plus générale, on pourrait dire que les résultats dépassent les causes, les absorbent, les neutralisent. Parfois un chat est tué au cours de ce processus, parfois un humain. En tout cas, il y a une chose, une seule, que je voudrais ajouter à ce texte. Je suis le fils ordinaire d'un homme ordinaire, c'est parfaitement évident. Mais au fur et à mesure que j'ai approfondi cette réalité, j'ai été convaincue que nous sommes tous le fruit du hasard et que tout ce qui a eu lieu dans ma vie et dans celle de mon père a été accidentel. Et pourtant, nous, les humains, ne vivons-nous pas en considérant comme la seule réalité possible ce qui n'est après tout que le simple fait du hasard? Autrement dit, chacun de nous n'est qu'une goutte de pluie, anonyme parmi la multitude de gouttes qui tombent sur une vaste étendue de terre. Juste une goutte unique, qui possède son individualité, mais qui peut être remplacée. Et chacune de ces gouttes a ses propres sensations, elle a sa propre histoire, et elle a la responsabilité de transmettre ce dont elle a hérité. Nous ne devons pas l'oublier, même si nous perdons notre moi individuel pour être englobé, effacé dans un collectif. Je devrais plutôt dire précisément parce que cette individualité est remplacée par du collectif. Parfois, aujourd'hui encore, je revois en pensée le grand pin qui se dressait dans le jardin de notre maison à Shukugawa. J'imagine le chaton accroché à une branche et son corps désormais réduit à un squelette blanchi. Et je songe à la mort. Je songe à l'extrême difficulté de descendre directement vers le sol. Le sol, si lointain qu'il fait tourner la tête. chers auditeurs, merci et à très bientôt sur Radio B.